Bien-aimés dans le Seigneur, pendant ce temps, nous voulons écouter la parole de Dieu. Je vais ici vous inviter à lire avec moi le texte des Psaumes, chapitre 11, le premier verset jusqu'au verset 7. Et nous allons lire Néhémie, chapitre 1, le premier verset jusqu'au verset 4. Nous lisons Psaume chapitre 11 et nous allons lire Néhémie chapitre 1. Je vais commencer la lecture à Psaume chapitre 11, le premier verset jusqu'au verset 7. Je conduis cette lecture dans le nom de Jésus. C'est à l'Éternel que je cherche refuge. Comment pouvez-vous me dire, fuis dans vos montagnes comme un oiseau? Car voici les méchants bandent l'arc, ils ajustent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'ombre sur ceux dont le cœur est droit. Quand les fondements sont ravissés, les justes, que fera-t-il? L'Éternel est dans son saint temple, l'Éternel a son trône dans les cieux, ses yeux regardent, ses paupières sondent les fils de l'homme. L'Éternel sonde les justes, il hait le méchant et celui qui se plaît à la violence. Il fait pleuvoir sur les méchants des charbons, du feu et du soufre, et va brûlant, c'est le calice qu'ils ont à partage. Car l'Éternel est juste, il aime la justice, les hommes droits contemplent sa face. Parole du Seigneur. Amen. Néhémie, chapitre 1, le premier verset jusqu'au verset 4. Parole de Néhémie, fils de Hakalia. Au mois de Kislev, la 20e année, comme j'étais assise dans la capitale, Hanani, l'un de mes frères et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs réchappés, qui était resté de la captivité et du sujet de Jérusalem. Il me répondit, ceux qui sont restés dans la captivité sont là, dans la province. Au comble du malheur et de l'opprobre, les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'entendis ces paroles, je m'assis, je pleurais, et je fis plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant les dieux des cieux. Parole du Seigneur. Amen. Ce matin, à travers les deux textes que nous venons de lire, les thèmes sur lesquels nous allons construire notre exhortation, nous l'avons intitulé « Quand les valeurs sont à miettes, que ferai-je ? » Quand les valeurs sont à miettes, que ferai-je ? Autrement dit, nous pouvons dire quand les valeurs sont détruites, qu'est-ce que le juste fera ? Le dimanche passé, nous avons parlé sur la prise de conscience de notre identité à Christ. Et il nous a été dit que lorsque nous appartenons à Dieu, nous devons prendre conscience que nous avons une nouvelle identité et notre vie doit être caractérisée par cette identité. Pendant cette semaine, nous avons abordé au sein de nos cellules et les groupes de la paroisse pour la plupart la question sur le leadership de Néhémie et la manière dont Dieu l'a appelé à relever la situation de Jérusalem au moment des ruines. Néhémie a été appelé à servir Dieu pendant que Jérusalem était détruite. Et c'est pour cela que nous voulons conclure ce message en nous posant la question de savoir quand les valeurs sont détruites, qu'est-ce que moi et toi qui avons l'identité des justes ou qui avons l'identité des enfants de Dieu devrions-nous faire? Nous sommes dans une communauté où nous voyons les valeurs perdre place et les antivaleurs prennent le dessus. Et lorsque nous disons les valeurs sont à miettes ou à ruines, cela veut dire la vérité est bafouée au nom du mensonge. Ça, c'est la communauté dans laquelle nous vivons. Les antivaleurs règnent et prennent le dessus sur les valeurs. Nous sommes dans une communauté où quelqu'un peut mentir et ne pas se gêner. Ce n'est pas un problème pour certains. Nous sommes dans une communauté où quelqu'un peut se taper la poitrine pour avoir fait du mal à l'autre. Ça, c'est la communauté que nous vivons. Nous sommes dans une communauté où les gens se réclament des assassinats. Quand il y a un assassinat, vous allez attendre, tel groupe se réclame d'avoir tué autant de personnes. Ça, c'est la ruine. Et cela montre que les fondements sont ébranlés et les valeurs sont à miettes. Et quand nous sommes dans une communauté comme celle-ci, nous, comme enfants de Dieu, que devons-nous faire? Ce matin, les textes de base avec lesquels nous voulons conclure cette semaine, je sais que ceux qui ont été dans les cellules pendant la semaine, vous avez suffisamment abordé la question des ruines de Jérusalem et de l'intervention de Néhémie. Mais ce matin, pendant que nous concluons la semaine, nous allons construire plus notre méditation sur les textes des psaumes chapitre 11. La première chose que je vais souligner dans ces textes, parce que mon message aura trois grandes choses, la première chose que je vais souligner, c'est que lorsque les valeurs sont à miettes ou lorsque les fondements sont ébranlés, nous devons, nous comme enfants de Dieu, être à mesure de prendre une décision nette et claire pour la confiance à Dieu. Une décision nette et claire pour la confiance à Dieu. Les textes du psaume chapitre 11 nous présente David qui visiblement passe par un moment difficile et pendant ce moment, les frères ou les amis qui sont à côté de lui, ils viennent lui dire de fuir dans les montagnes parce que les ennemis sont déjà là et se préparent pour lui faire du mal. En Israël, habituellement, quand les choses ne marchaient pas, il fallait fuir dans les montagnes parce que Jérusalem était dans une cuvette. Jérusalem est construite dans une cuvette et autour de Jérusalem, il y a des montagnes. Ceux qui font la géographie de la Bible peuvent voir ça. Alors, pour fuir, il faut fuir vers les montagnes parce que l'ennemi est là. Mais David, dans les textes que nous venons de lire, dans l'interaction avec ses amis, David va dire dans le premier verset, c'est la première chose qu'il va dire, c'est à l'Éternel que je cherche quoi? C'est à l'Éternel que je cherche un refuge. Alors que les amis viennent lui demander de fuir, il dit, comment pouvez-vous me demander de fuir dans les montagnes? De fuir comme les oiseaux? Il dit, moi, c'est à l'Éternel que je cherche un refuge. J'ai aimé la traduction de la Bible, de la tradition écuménique de la Bible qui dit, je fais du Seigneur mon refuge. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque les fondements sont ébranlés et lorsque les valeurs sont mises à miettes, nous, comme enfants de Dieu, nous devons trouver notre refuge à l'Éternel. Ce qui m'intéresse dans ce texte, bien-aimé, c'est la position nette et ferme de David. Quand il passe par des moments difficiles, il ne tâtonne pas. Il ne demande pas une position. Qu'est-ce que je fais? Non. Il dit fermement, j'ai fait du Seigneur mon refuge. La décision est prise. La décision est prise. Une des choses qui nous dérange lorsque nous traversons les moments difficiles et lorsque les valeurs sont détruites, c'est la prise de décision. Il nous arrive que lorsque nous voyons le monde aller en désordre, nous tâtonnons sur les décisions que nous avons à prendre. Pourtant là, lorsque les choses se passent très mal, David nous enseigne que Dans la vie, il y a des choses sur lesquelles il faut décider clairement. Pourquoi David a fait ceci? Parce qu'il a compris que sa vie était fondée sur la décision qu'il devait prendre. Lorsque nous marchons avec le Seigneur, il y a des choses sur lesquelles notre vie va dépendre. Et nous devrions apprendre à prendre des décisions nettes et claires. Je ne sais pas, lorsque les choses se compliquent dans ta vie, qu'est-ce que tu fais? Et vous savez, nous sommes dans une communauté où lorsque les choses se compliquent, il y a toujours des conseillers. Il y a toujours des gens qui te disent « Où si j'ai tout, me baigner à Outaouès ?» Il y a toujours des gens qui veulent nous conseiller, nous amener à ne pas pourtant prendre la décision. Mais David nous enseigne qu'il y a certaines choses devant lesquelles il ne faut pas perdre du temps, il faut prendre la décision. Je vais dire à quelqu'un ce matin que dans ta vie, il y a des moments où il ne faut pas tâtonner sur certaines choses. Il y a des moments où il faut décider et attendre de vivre la réalité de ce qui va arriver quand tu auras déjà décidé. Plusieurs fois, nous avons échoué parce que nous avons tâtonné. Chère jeune fille, il y a le moment de prendre la décision et de te poser la question quand tu es déjà en train de marcher. Les fois que nous nous posons des questions avant de commencer la marche, nous n'y arrivons pas. Je me suis rappelé des disciples de Jésus qui a dit, « Bon, je voudrais te suivre, Jésus, mais permets que avant de te suivre, je commence par faire telle ou telle autre chose. » Jésus a répondu en disant, « Celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne de moi. » Dieu nous attend dans notre vie être à mesure de décider de marcher avec lui. Sans que nous nous posions la question de dire qu'est-ce qui va se passer. La semaine dernière, on nous a parlé de l'aspect sur l'alcool et beaucoup d'autres choses dans notre vie qui nous demandent des décisions. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais nous dire ce matin, il y a des choses qui ne disparaîtront pas dans votre vie par la prière. Il y a des choses qui ne disparaîtront pas dans votre vie parce que les gens ont pris du temps de jeûner et de prier pour toi. Certaines choses disparaîtront de ta vie par ta propre décision et par ta propre discipline. Si tu penses qu'on prie pour toi, on peut faire toute une semaine de jeûne ici pour toi. Mais après, tu te rends compte que ces choses-là restent. Il y a des choses devant lesquelles tu peux dire, je décide d'arrêter. Ça s'arrête par ici et je commence une nouvelle histoire. Quelquefois, il y a des moments que nous prenons le temps en train de demander à Dieu, « Oh Seigneur, permets-moi de faire ceci. Oh Seigneur, permets-moi de faire ceci. » Et le Seigneur te dit, « Qu'est-ce qui t'empêche de faire ça? Qu'est-ce qui t'empêche ?» J'ai déjà dit une autre fois ici que quelqu'un peut rester en train de dire, Mungu tuondole masharibu. Babiana bana tusumbua sana. Et quand on lui demande, non, vraiment, je suis au milieu de plusieurs tentations. Quelles tentations? Ah, il y a beaucoup de jeunes qui me sollicitent pour telle ou telle autre chose. Est-ce qu'il faut prendre le temps de jeûner pour un garçon, pour une fille qui te tente? Il faut prendre le temps et le courage de dire, ça c'est non, et le non est déjà prise. David, devant les réalités de sa vie, lorsque les amis disent, il faut courir, maintenant c'est compliqué, il dit, j'ai le Seigneur comme mon refuge. Et cela lui permet d'être calme. Quand les valeurs sont amiantes, rassurez-vous que vous avez déjà pris la décision la plus importante, et cette décision, c'est la confiance à Dieu. La Bible dit, lorsque Néhémie a appris que Jérusalem était détruite, la première chose qu'il a fait, il est parti devant le Seigneur et il a pris son temps à communiquer avec Dieu. Certaines choses nous demandent de prendre des décisions nettes et claires, et le Seigneur qui veut marcher avec nous, il a besoin que nous ayons une position claire par rapport à notre confiance à lui.
Rappelle-toi que certaines choses disparaîtront dans ta vie seulement parce que tu as décidé d'arrêter.
La deuxième chose que nous regardons dans ce texte est la question que nous nous posons. Pourquoi mettre sa confiance à Dieu par-dessus tout ou lorsque les valeurs sont détruites? La première chose que nous observons dans ce texte que nous lisons en Psaume chapitre 11, David a choisi de mettre sa confiance à Dieu. La première chose, c'est qu'il a compris que Dieu ne se laisse pas secouer. Même quand tout est ébranlé, même quand tout semble noir, Dieu règne toujours et ne se laisse jamais surprendre par quoi que ce soit. Le verset 4a. David dit ceci: l'Éternel est dans son temple, l'Éternel a son trône dans les cieux. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu vois les choses marcher bizarrement à côté de toi, rappelle-toi que le Seigneur est dans son temple et il règne sur son trône. Alléluia. Même si tu ne comprends rien, la mer est agitée, tout le monde essaie de tourner de la vérité. Rappelle-toi que tu as crié à Dieu et c'est Dieu. Quel que soit le chaos qui se passe, il règne et il siège sur son trône. Il ne se laisse pas surprendre et il n'est jamais intimidé par les situations qui peuvent nous intimider. Alléluia. Je veux que quelqu'un dise en ces défis, j'appartiens à Dieu qui reste assis sur son trône, même quand tout semble noir à côté de moi. David met sa confiance à Dieu parce qu'il a compris que même quand les choses ne marchaient pas, mon Dieu règne. Il est dans son temple. Et aussi longtemps qu'il est dans son temple, je ne crains rien parce qu'il est là et il ne se laisse jamais ébranler. La deuxième chose qui conduit David à prendre la décision de la confiance à Dieu, c'est qu'il comprend que Dieu reste au contrôle. Même quand tout est ébranlé, même quand tout le monde s'est désorienté, Dieu reste au contrôle. Il connaît tout, il voit toutes les tactiques qui se planifient, même ce que nous ne voyons pas encore. Et David va dire, l'Éternel a son trône dans les cieux, ses yeux regardent, ses paupières sondent les fils de l'homme. Même lorsque nous avons peur devant la réalité, lorsque nous avons peur de nos ennemis, nous pouvons comprendre que Dieu contrôle tout. Que Dieu est en train de contrôler. Vous savez, il arrive des fois de penser que nous sommes ce que nous sommes, peut-être par nos efforts. Mais la réalité, c'est que ce que nous sommes, c'est la grâce de Dieu. Nous sommes ce que nous sommes par la grâce de Dieu. Il y a tellement de choses que Dieu n'a même pas choisi de nous montrer parce que s'il nous les montrait, nous aurons très peur. Le Seigneur, il prend contrôle sur tout. Et c'est pour cela que la grande chose que nous devrions manifester dans notre vie, c'est la confiance à Dieu. Quand tu prends une décision de marcher avec Dieu, reste confiant parce que les choses que tu ne sauras pas contrôler, le Seigneur lui-même va les contrôler. Il y a des questions que nous nous posons. Je me rappelle un moment quand j'étais en train d'étudier. Alors il m'est arrivé au moment où on m'a dit, le travail que tu écris là, pour le déposer, il faut avoir 5 000 $. Ah! 5 000 $, je n'ai jamais touché 1 000 $. Avant de commencer, je me suis dit, ah, pas une femme, toi, j'ai ambié, ah, tu n'as pas gagné bien. Alors, je suis parti voir quelqu'un. Je lui ai dit, vraiment, j'ai très peur. Je comprends que ça va être très, très compliqué pour moi. C'était ici au bureau de l'ECC. Il m'a dit, tu as peur de quoi? J'ai dit, j'ai peur du dépôt. Le dépôt de quoi? Du travail. Ton travail est où? Je voudrais le commencer. Comment tu peux avoir peur de quelque chose qui n'est pas encore là? Laisse le Seigneur te conduire et un jour, quand cela pourra arriver, il fera.
Je vous assure, à l'heure où je vous parle, ces problèmes-là, Dieu l'a résolu.
Il y a des choses qui nous font peur seulement parce que nous voulons les prendre par nos propres capacités. Mais le Seigneur voudrait que certaines décisions, tu les prennes dans ta vie parce que tu comprends que l'effectivité de cette décision ne dépendra pas de toi, mais dépendra du plein contrôle de Dieu. Je vais te dire que les situations qui te font peur, le Seigneur contrôle. Le Seigneur est au contrôle. Il regarde. Il sait que ça te fait mal. Il est là. Laisse-le faire. Un jour, tu passeras et tu témoigneras. C'est pour cela que le psalmiste a dit, « Je ne mourrai pas, je vivrai. » Pour raconter les merveilles de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des choses qui nous font peur aujourd'hui. Mais demain et après-demain, nous allons les raconter comme des témoignages. Parce que nous avons Dieu qui contrôle toutes choses. La troisième chose qui apparaît ici, même quand tout est ébranlé, quand les valeurs sont à miettes, Dieu reste le seul juge par-dessus tout. David dit au verset 5 et 6, « L'Éternel sonde les justes, il est le méchant, et celui qui se plaît à la violence, il fait pleuvoir sur les méchants des charbons. » Les versets 5 et 6. « Il fait pleuvoir sur les méchants des charbons et quoi? Du feu et du soufre. » Et va brûlant, c'est le calice, lui c'est God dit, c'est le calice qui va couler de nos ennemis. C'est quoi? C'est va brûlant. Lorsque les valeurs sont détruites, en tant convenable, Dieu manifestera son jugement. Quand nous voyons les choses devenir noires autour de nous, rappelons-nous que la justice de Dieu, il y en a. Dieu est celui qui, les moments venus, placera chacun à sa réelle place. Et quand les gens peuvent dire des choses sur toi, laisse passer un jour. Dieu, qui reste le seul juge, il mettra chacun à sa place. Et toutes les choses qui ont été dites contre toi, le Seigneur révélera la vérité. Quelqu'un a dit un jour que dans ce monde où nous vivons, le mensonge va très vite. Mais heureusement que la vérité vient lentement et finit par arriver. Lorsque les valeurs sont mises à des bandades ou à miettes, nous devons comprendre qu'il est important de rester attaché à Dieu. Parce que même si les antivaleurs prennent place, Dieu, le seul juge, un jour remettra chaque chose à sa place. Vous savez, quand nous serons devant le Seigneur, nous comprendrons beaucoup de choses. Nous comprendrons que nous ne nous sommes pas fatigués pour rien. Et même si les gens te disent, « allez-y, on va seulement vous regarder. » Oui, laissez-les nous regarder. Quand le juste juge fera, et qu'il fera à soi, chacun à sa place, on verra qui avait raison. Appartenir à Dieu, c'est la chose la plus importante parce que même lorsque le monde ne nous accepte pas, Dieu nous accepte. Même lorsque le monde ne veut pas nous établir, Dieu nous établira. Lorsque le monde ne veut pas nous honorer, Dieu nous honorera. Et la chose la plus importante, c'est de vivre dans ce monde en sachant que vous avez l'approbation de Dieu et non l'approbation de l'homme. La Bible dit, à quoi servira-t-il à un homme de gagner le monde entier et de perdre son âme? À quoi servira-t-il pour toi d'être acclamé par les hommes, d'être acclamé par ceux qui sont autour de toi? Mais Dieu dans son ciel, il ne te reconnaît pas. La chose la plus importante, c'est de choisir de mettre sa confiance à Dieu. Même si cela peut devenir difficile, choisis de manifester ton identité à Christ, parce que c'est la chose la plus importante. La troisième chose, parlons un peu de l'impact de la marche dans la confiance à Dieu quand les valeurs sont à miettes ou quand les valeurs sont ébranlées. L'identité de pleine confiance à Dieu, telle que nous le lisons chez David à psaume 11, nous comprenons que cette identité crée en nous une nouvelle manière de voir les choses. Nous ne nous comportons plus comme les gens de ce monde, mais comme des enfants qui dépendent impérativement de Dieu. Ce qui compte dans votre vie, lorsque vous êtes attaché à Dieu, quelles que soient les antivaleurs de ce monde, ce qui compte dans votre vie, ce n'est pas ce que les gens pensent de vous. Ce qui compte dans votre vie, ce n'est pas ce que les gens disent de vous. Ce qui compte dans votre vie, ce n'est pas ce que tout le monde fait. Ce qui compte dans votre vie, c'est que nous sentons la volonté de Dieu et nous sommes attachés à accomplir cette volonté. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, il y a des gens qui pêchent. Ils commettent des péchés seulement parce qu'ils craignent ce que les gens vont penser d'eux. Et tu commets un péché seulement parce que tu dis, qu'est-ce que les gens vont penser de moi si et seulement si je refusais. Celui qui appartient à Dieu, ce qui compte, ce n'est pas ce que les gens pensent de lui. Ce qui compte, c'est qu'est-ce que Dieu pense de moi. Il y a des gens qui pêchent seulement par crainte de ce que les gens diront d'eux. Et quand tout le monde à côté de toi se moque de toi, dit, ah, laquelle, à ton âge, tu es encore à mesure de... Tanjo Bujakas. Et tu commences à dire, ah, il m'en est à Bujakas, il n'a ni chokesh. Moi-même, je vois finalement si je peux oser. Et quand tu oses, tu deviens la leçon pour tout le monde. Voilà! On disait, d'ailleurs, nous, on savait. Ah, vous saviez quoi alors que j'ai essayé? Il y a des gens qui paient seulement parce qu'ils craignent ce que les gens vont dire d'eux. Ah, je ne veux pas que les gens disent, bon, ok, comme je ne veux pas que les gens disent, attendez, je vais faire. Bien-aimé, ce qui compte pour un enfant de Dieu, ce n'est pas ce que les gens disent de nous. Ce qui compte, ce n'est pas ce que les gens disent. Qu'ils disent, ils diront, mais que nous fassions la volonté de Dieu. Lorsque les antivaleurs prennent place, ne choisis pas d'aller vers les antivaleurs parce que tu as peur de ce que les gens disent. Est-ce que Peter de Dieu nous a déjà dit? En fait, même quand tu penses qu'on ne dit rien de toi, on est en train de dire. On est en train de dire. Même si tu y vas dans le péché, tu trouveras que même dans ces péchés, on va encore dire beaucoup de choses de toi. C'est pour cela que je viens de vous dire, même quand tu dis « je vais oser », et les gens commencent à dire, voilà, on disait. Nous, on savait que la marche là qu'il avait commencé, il ne va pas aboutir. Je vous ai déjà parlé des papas qui avaient pris la décision. Il était vraiment un alcoolique sérieux. Et il a dit un jour, je prends la décision aujourd'hui, je ne boirai plus. C'était appelé culte. Il a dit, je ne boirai plus à partir d'aujourd'hui. Les gens ont commencé à dire, hey, on va voir. Certains lui ont dit, on te donne une semaine. Si tu finis la semaine, on saura que vraiment tu es sérieux. Il a fini la semaine. Les autres ont dit, ok, on te donne 2 semaines. Après les 2 semaines, ils ont dit, on te donne 1 mois. Après les 1 mois, ils ont dit, bon, on te donne 6 mois. Et jusqu'aujourd'hui, ils ne savent plus donner. Parce qu'ils ont compris que il y a des décisions qui renversent les antivaleurs. Tu décides et les gens disent, est-ce que c'est lui ou ce n'est pas lui? Et tu ne regardes pas ce que les gens diront de toi. Tu regardes celui qui t'a appelé à marcher avec lui. Il y a des gens qui pêchent par crainte de paraître différents. Ils disent, c'est ce que tout le monde fait. Et comment vous pensez que je fasse les choses autrement? Je vais te dire ce matin que tu es à mesure de faire des choses qui ne se sont jamais faites là où tout le monde a fait telle ou telle autre chose. Et cela doit être un sujet de prière pour toi. Seigneur, permets que si je deviens tel dans cette communauté, que je fasse les choses de manière différente. Ce pays a besoin des gens qui peuvent dire, je viens, mais je viens faire les choses autrement. Les problèmes que nous avons dans ce monde, ce sont les systèmes. On te dit, mon frère, tu es déjà dans les systèmes. C'est comme ça que les systèmes fonctionnent. Ça peut être même dans des communautés chrétiennes, un groupe de chrétiens. Mais on te dit, ici, nous avons un système. Et le monde a créé des vocabulaires.
a fait la politique de travail ici. La politique de travail. Et tu vas voir que derrière ce qu'on appelle politique de travail, il y a tellement de choses qui sont en train d'entretenir les antivaleurs. Je vais vous dire, bien-aimé dans le Seigneur, tu peux être dans une organisation chrétienne. Tu es en train de servir. Les systèmes, la politique, les choses-là peuvent t'amener un jour à regretter tout le temps que tu as fait. Il est important, bien-aimé dans le Seigneur, que nous soyons à mesure de dire, même si tout le monde le fait, moi je ne le ferai pas. Je ne suis pas appelé de faire ce que tout le monde fait. Paul écrit et dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Dieu a besoin des hommes et des femmes qui se lèvent pour faire les choses de manière différente. Je sais que je m'adresse ici à des ministres. Je sais que je m'adresse ici à des députés. Je sais que je m'adresse ici à des directeurs des institutions. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque le Seigneur va t'élever, je prie que le Seigneur t'élève et te fasse voir le rêve que tu attends. Et lorsqu'il va t'élever, accepte de faire les choses différemment. Détruis le système. Quel système? Quand les gens viennent te dire, ah, tu connais le système ici, tu dis, je suis venu avec un nouveau système. C'est le système céleste. Ici, tu n'es pas sélectionné parce que tu es fils de. Tu n'es pas sélectionné parce que tu es sélectionné parce que le Saint-Esprit nous a convaincus. Alléluia. Imaginez que le pays où on nomme des ministres par conviction du Saint-Esprit. Que le Seigneur nous aide. Nous avons besoin de voir les choses autrement. Lorsque les valeurs sont en miettes, un enfant de Dieu est celui qui doit s'élever pour dire non, ça ne doit pas se passer comme ça. Ah, vous voyez mon fils là, en fait, comme je le fais scolariser, il faut le faire entrer dans les systèmes. Papa, le Saint-Esprit ne nous a pas convaincus que ton fils doit entrer dans les systèmes. Politique de travail, quelle politique? Il y a la politique céleste que nous sommes venus instaurer. Je prie que cela commence par moi, que cela commence par toi. Lorsque les valeurs sont en miettes, voyons la volonté de Dieu et faisons passer la volonté de Dieu par-dessus tout. Le Seigneur est prêt à nous utiliser comme il a utilisé Néhémie. Néhémie s'est levé. Il a dit, même si la ruine est déjà une menace à Jérusalem, je veux faire autrement. Je vais m'engager à agir autrement et je vais reconstruire, même si tout le monde ne le voit pas. Mais je vais le faire et je vais continuer et je vais faire en sorte que la volonté de Dieu soit manifeste. Dieu nous appelle à une vision claire. Nous sommes dans une communauté où les valeurs sont détruites. Les choses sont bizarres autour de nous. Les choses ne sont pas claires. Dieu attend de nous la première chose, la confiance absolue. La décision nette et claire d'être confiant à Dieu. Dieu attend de nous de faire quoi? De ne regarder que lui seul. Et Dieu attend de nous une position qui va marcher à contre-courant des choses qui se passent dans le monde. Ce n'est pas parce que tout le monde le fait que tu es obligé de le faire. Non, tu es venu seul. Quand tu es né, personne ne t'a aidé à naître. Quand tu étais là, personne n'était là. Accepte d'aller sur la marche de celui qui a voulu ton existence. Parce que tu es unique dans ton être. Tu es unique. Et accepte que ta manière de faire soit unique pour révéler et refléter la gloire de Dieu. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Pendant ce temps, nous allons prier le Seigneur. Je prie que tu pries pour toi-même, en fait, que le Seigneur t'aide. Nous allons nous mettre debout pour prier. Nous allons chanter le premier couplet du cantique qui dit entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Quand tu seras en train de prier, tu seras en train de regarder quelle est la décision la plus importante que tu dois prendre par rapport à ton environnement, par rapport à ton contexte de vie. Quelle est la décision la plus importante? Néhémie a été utilisé par Dieu parce qu'il a accepté d'aller, quel que soit ce qui pouvait être comme contrainte, il est parti. Nous allons chanter ces couplets. Tu seras en train de prier pour toi. Et celui qui va clôturer ces moments de prière, ça sera le vice-président communautaire qui va prier en même temps pour notre bénédiction pour la fin des cultes.
Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur,
prie pour toi, prie pour la décision que tu veux prendre dans ta vie. Et donne à Dieu l'espace de prendre le contrôle de tout ce qui se passe à toi. Nous allons inviter en ces lieux le vice-président communautaire. Il va prier pour nous et il va prier pour retirer la fête de ce culte.
Dieu, notre Père, merci pour le message que nous venons de recevoir. Quand tout chancelle autour de nous, nous devons mettre toute notre confiance à toi. C'est toi notre refuge. Nous avons mis notre confiance aux hommes, aux organisations. Nous avons été déçus. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, toi qui as fait l'homme à ton image, tu t'intéresses au salut de l'être humain. Tu ne peux pas le décevoir. Tu es là pour notre délivrance. Nous voulons mettre notre confiance à toi, Seigneur, sachant que tu nous aimes et que tu vas continuer, Seigneur, à nous diriger selon ta volonté. Permets que nous ne soyons pas influencés par le système de ce monde, que nous puissions manifester notre identité céleste. Nous sommes sur cette terre comme des ambassadeurs du ciel. Permets que nous puissions, Seigneur, manifester ta gloire pendant que nous vivons sur cette terre. Nous devons vivre différemment des autres parce que nous avons été rachetés par toi. Nous t'appartenons, Seigneur. Nous ne nous appartiens pas. Nous sommes à toi, Seigneur, et nous voulons te servir tous les jours de notre vie. Béni sois-tu parce que tu parles à nos cœurs par ton Esprit Saint, celui qui est en nous, pour nous conduire dans le chemin de la justice et de la vérité. Nous vivons dans un monde chaotique, un monde qui nous demande de choisir entre le mal et le bien. Le mensonge est là pour faire son travail. Aide-nous, Seigneur, parce que nous avons besoin de toi. Dans notre marche, si nous t'abandonnons, nous allons certainement échouer. Mais lorsque, Seigneur, nous mettons entre tes mains, nous sommes et nous avons l'assurance que nous serons bénis par toi. Bénis tout le monde ici présent. Celui qui est en train de suivre ces enseignements. Laisse que nous puissions impacter positivement nos familles, nos lieux de travail, la société en général. Aide-nous. Nous avons besoin de toi, Seigneur, et nous croyons que tu es avec nous pour nous diriger dans la justice. Bénis ton serviteur, bénis tout le monde ici présent. Nous arrivons à la fin de ce service que nous avons voulu te rendre, Seigneur. Nous sommes venus te rendre hommage parce que c'est toi, notre Dieu, qui mérite louange et gloire, le Dieu Tout-Puissant. Reçois notre culte comme une offrande de bonne odeur pour glorifier ton nom. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, que l'amour de Dieu notre Père et la communion du Saint-Esprit accompagnent chacun de nous pendant toute la semaine. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Allez dans la paix du Seigneur.